Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le 101.5 de Radio G. Il est 19h et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Vous êtes dans la case de Seb et ce soir au programme on va parler de polar, de bouffe, de dinosaures et de démons et aussi d'un bateau. Mais tout d'abord, attention, générique. Hop là, je me trompe de bouton. Il part pas. Ah, c'est le bazar. Mais c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Qui est-ce qui m'a bougé ça? Hop, je sais plus parler. On va raconter des bêtises. Sinon, ça va bien. Et je suis pas tout seul. Je suis en compagnie de Richard, de Nolwenn et de Luc.
Hello, salut Seb et bonne année Seb.
Oui, hey, ouais. Bonne année. Bah, on s'est déjà souhaité, mais bonne année.
Mais oui, parce que... pas dans le micro.
Ah, si. Mais si. Dans les voix du scénario.
Ah, sur ouais, l'autre mission, ouais.
Ah ouais, d'accord.
Bonne année, ça... Luc.
Merci Richard.
Ça va?
Ouais, ça va. À part les premières insultes que t'as lancées quand je suis arrivé dans le
c'est
studio, ça va.
C'est une blague. Oh.
Mais oh, attends. Tu veux te la jouer là?
Ah.
Bon, ben on y va avec le générique du coup. C'est parti. Eh ben non, ça veut pas.
Sauvez-vous tous! Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Kaizoku-oni, oré wa naru.
Nous, un petit ch'touf.
Trompez vite, il est parfaitement ici.
Justement, les touristes de bord.
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb. La seule émission où on perd des chroniqueurs.
C'est ça,
juste avant le
jingle est lancé et voilà, on en est venu aux mains avec Luc.
C'était très violent. Bon, on espère que ça va bien aller et qu'il va nous rejoindre dans quelques instants. On est bien dans l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans vos oreilles les plus belles images de la BD franco-belge, du comics et du manga, avec un petit peu de tout ce soir. Et bien écoutez, ce que je vous propose de faire dès le début, comme ça, c'est de commencer directement avec la chronique de Fabien. Mais avant, on met son petit générique, parce que j'ai tendance à oublier les génériques.
Kaizoku-oni, ore wa naru.
Nani? お前はもう死んでいる。
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. Et pour commencer cette année en beauté, je vais vous parler d'une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Bateau de Thésée. Alors, Le Bateau de Thésée, c'est une série éditée chez Vega Dupuis qui est sortie au Japon en 2017 et qui est arrivée en France en 2019. Elle est terminée en 10 tomes. Et le mangaka au dessin et au scénario, c'est Toshiya Higashimoto. Alors, c'est un seinen de type policier, suspense fantastique. Et donc du coup, le bateau de Thésée, de quoi ça parle? Donc je vais vous faire le petit résumé d'abord de l'éditeur, et après je vais vous en refaire un petit à ma sauce un peu plus détaillé. Du coup, Tokyo de nos jours. La vie d'un père bascule lorsque sa femme meurt lors de l'accouchement de leur enfant. Face à sa vie et perturbé, le père part à Hokkaido, terrain de son enfance. Mais alors qu'il retrouve les traces de son passé familial, on apprend que son propre père fut un criminel responsable d'un massacre à Hokkaido. Un mystère entoure cette histoire, qu'il se défie de résoudre. Thriller temporel, le manga offre une jolie construction en miroir entre présent et passé. Alors voilà pour le petit synopsis de l'éditeur. Plus concrètement, moi je vais vous dire de quoi ça parle pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc on va suivre la vie de Shin Takuma, un jeune homme de 28 ans qui semble au premier abord avoir une vie heureuse avec sa femme et qui va bientôt accoucher. Mais ce bonheur va va être en fait un peu qu'une façade, car on apprend rapidement que Shin vit depuis toujours en portant sur ses épaules le crime d'un père qu'il n'a pas connu, puisque ce dernier s'est fait arrêter et est toujours emprisonné, alors qu'il n'était encore que dans le ventre de sa mère. Donc ce père, Bungo Sano, est accusé d'avoir commis une des pires affaires de meurtre des dernières décennies, un empoisonnement au cyanure de potassium dans une école primaire du village d'Otohusu à Hokkaido, qui a provoqué la mort de 5 professeurs et 16 enfants. Le manga va profiter de ce contexte pour nous dévoiler une part sombre un peu de la société japonaise sur les conséquences de l'acte d'une personne sur toute une famille. En effet, au Japon, on est vite mis au banc de la société par rapport à ce qui se passe dans sa famille, malgré le fait qu'on soit pas forcément responsable des actes des autres. Donc on va avoir un peu ce côté-là dans le manga. Parce que du coup, va s'en suivre un calvaire pour les membres de cette famille. Ils vont être obligés de déménager constamment, dès qu'on fait le rapprochement par rapport à l'affaire. Ils vont essayer de cacher, ils vont essayer de filer droit, pas de sourire, s'excuser constamment sur ce qu'a fait son père et tout ça. Donc du coup, Shin, il a pas eu une enfance très facile. Il a pas réussi, il a jamais vu sa mère sourire, voilà. Du coup, forcément, il a un ressentiment envers son père, qu'il n'a donc jamais connu et qu'il n'a jamais voulu aller rencontrer en prison. Mais certains événements vont venir bousculer tout ça. En effet, sa femme, qui a continué, elle, toujours à vouloir en connaître un peu plus sur l'histoire de cette affaire criminelle, elle va essayer d'enquêter un petit peu à sa façon pour voir un peu ce qui a pu se passer. Et elle va trouver certaines zones d'ombre et elle va même venir à se demander, si Bungo Sano n'était pas innocent. Malheureusement, cette dernière n'a pas le temps de peaufiner son enquête car elle décède lors de l'accouchement de leur enfant. Enfant que la belle famille de Shin veut absolument récupérer car il est impensable pour eux que leur bébé, entre guillemets, soit élevé par le fils d'un criminel. Donc on en revient encore à cette histoire de conséquences sur les faits d'une personne tierce dans une famille. Cette fois, c'en est trop pour Shin, qui lui va décider d'aller à la rencontre de son père en prison pour essayer d'en apprendre plus. Mais juste avant cela, sur le trajet, il va décider de faire un détour par le lieu du drame, Otohusu, village laissé totalement à l'abandon depuis l'époque du drame et dont l'école avait été entièrement rasée suite à ça. Et c'est au moment où il va arriver sur place qu'un étrange phénomène se produit. Shin est pris dans un épais brouillard et lorsqu'il en ressort, il se retrouve devant une école intacte dans un village encore plein de vie en janvier 1989, 6 mois avant la date fatidique. Donc là, on a posé vraiment le décor. Alors c'est vraiment le tout début hein, du manga, hein. Je ne spoil rien d'important. Donc comme vous l'aurez compris, on va du coup suivre ce jeune homme dans son passé pour essayer d'un peu de découvrir ce qui s'est passé réellement. Il va forcément rencontrer des personnes qu'il connaît, mais lui avec sa vision du futur, sachant les événements qui vont se passer. Donc on va vraiment être sur une enquête très bien ficelée, avec bien le principe de causalité qui va rentrer en compte, puisque les événements qu'il va faire dans le passé vont forcément avoir des répercussions aussi dans le présent. Et donc on va suivre toute cette enquête avec toujours cette envie haletante d'avoir la suite et de savoir ce qui va se passer. Donc vraiment une série très intéressante à lire. On a toujours envie de découvrir ce qui va se passer. Et je recommande fortement. On passe vraiment un très bon moment. C'est assez rafraîchissant parce que du coup, je trouve que le côté temporel est plutôt bien amené. Même si on a déjà connu ça dans d'autres mangas, je trouve que le mangaka s'en sort vraiment très bien par rapport à ça. Côté dessin, c'est très propre. On est sur un style très réaliste. Il arrive à installer une ambiance un peu sombre, pesante par moments, avec de beaux décors. Ça fait tout à fait le job. Ça colle très bien à l'atmosphère générale du manga. Pour moi, c'est donc un grand oui, série terminée, pas très longue, seulement 10 tomes. Franchement, ça vaut le coup. En plus de ça, ils ont sorti l'intégrale en coffret en fin d'année dernière. Donc moi, je dis allez-y, hein, foncez. Si jamais il y en a qui veulent préférer voir un peu ce que ça donne avant, je les ai au magasin. Donc toujours possible de venir découvrir quelques tomes avant de se lancer. Ça vaut vraiment le coup. Sinon, concernant le mangaka, ben, en fait, il signe avec le bateau de Thésée sa première série, qui est vraiment une réussite. Et on peut le retrouver depuis sur une série qui est encore en cours de parution, qui s'appelle Les Enfants d'Hippocrate, où rien à voir cette fois, on va suivre la vie d'un jeune pédiatre avec ses patients. Et il paraît, alors j'ai pas encore eu l'occasion de les lire, mais j'ai commencé la série au magasin, que c'est vraiment très sympa et rafraîchissant. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour cette fois. Je vous dis à dans 15 jours, et en attendant, je vous souhaite plein de super lectures. Au revoir.
Merci Fabien pour cette chronique. Effectivement, on te souhaite la bonne année par intermédiaire de la radio, hein, puisque du coup, on se reverra que dans 15 jours. On a récupéré Luc en forme, hein, quand même.
Super forme.
Super forme, solide. Ouais.
On va jouer prudente, on va pas mettre de sang partout, même si c'est une chronique polar.
C'est lui qui met de lui-même dans les chroniques. Hein est-ce que tu veux t'en occuper tout de suite maintenant?
Oui, débarrassons-nous de la chronique.
Non mais bon, moi j'ai pas de... Oula, je veux absolument pas me débarrasser de toi.
Bon.
Alors attends, parce que du coup on a un petit générique quand même. Hop, c'est parti. Si ça veut bien.
Bulle de noir. Quand le polar s'écrit en BD.
Eh bien, pour cette première chronique de l'année 2024, petit voyage dans le patrimoine du 9e art avec un album exhumé par les éditions du Tiroir, Saint-Germain-des-Morts de Denis Baudard et Alain Streng. Avec Saint-Germain-des-Morts, on est dans le classique des classiques des polars, le cocktail le plus simple qui soit, des morts et un privé.
Bon, je parie que tu vas nous dire de quoi ça parle.
On est à Paris, comme le nom de l'album le laisse supposer, les années 60, un immeuble cossu, une femme, Sonia, artiste peintre à 16 heures, son frère Édouard, son chaperon. On est dans la haute, dans la très haute bourgeoisie, et on parle bien. Sonia se morfond en buvant du champagne. Son deuxième amant vient d'être assassiné, comme il y a quelques mois le précédent. Et que voulez-vous, quand on est de la haute et qu'on est artiste, les meurtres, ça crée des angoisses. Alors on se morfond, et comme on est dans les années 60, on fume et on boit. Sonia se morfond donc, et Sonia a peur. Ces deux morts ne peuvent être le fruit du hasard. Il faut donc briser ce qui semble une malédiction tournée vers elle. Aux grands mots, les grands remèdes. En femme du XXe siècle, elle décide de recruter un détective privé pour qu'il mène l'enquête. Le détective privé, c'est Richard Dombray. Et à lui seul, il est la quintessence des détectives privés. La morgue d'un Philippe Marlowe, le nihilisme d'un Pépé Carvalho, l'alcoolisme d'un Dashiell Hammett et l'imperméable d'un Sam Spade. Il accepte la mission, mais pour se sortir de son marasme, Sonia, toujours chaperonnée par son frère Édouard, rend visite à Guy, le saxophoniste fou, vieil artiste qui entretient une cour interlope. Le Guy en question, il héberge, voire plus si affinité, Julie, une poétesse évaporée, mais surtout addicte à l'éther. Changement de décor. Un étrange personnage reçoit une femme, peut-être un fétichiste, puisqu'il lui demande de revêtir une tenue particulière. Mais il est furieux parce qu'il n'obtient pas l'effet recherché et il la tabasse. Et s'il y avait un lien entre ce mystérieux fétichiste et Sonia?
Ah, le suspense. Mais cet album, c'est une nouveauté?
Cet album, Saint-Germain-des-Morts, est paru en 1985, publié par les éditions Bédéscope. Le scénario est un classique du roman noir américain qu'on a appelé en son temps le hard boil. D'un autre côté, c'est de la BD franco-belge pur beurre, mais on n'est pas dans la ligne claire. On est dans un graphisme qui s'en écarte et qui semble ouvrir des portes parce qu'il introduit la notion de mouvement. Denis Baudard met un soin tout particulier à choisir ses cadrages quand il n'hésite pas à déporter le point de vue. Et il aime bien se placer de trois quarts dessus, dessous, de côté. Mais surtout, ce qu'il semble rechercher, c'est la représentation de la dynamique, du mouvement, de la vitesse. La couverture en est un parfait exemple. On retrouve beaucoup de vignettes dans lesquelles le mouvement est classiquement représenté par des traits, mais il n'hésite pas à signifier la course d'un homme en le dessinant de dessous, et la planche de la poursuite en scooter est un modèle du genre. Le choix des couleurs est aussi radical. Si la première planche est toute en couleurs, très rapidement les planches sont coloriées dans des dominantes uniquement de deux couleurs. Pour ce qui est du scénario, il est parfait. L'histoire est traitée en 48 pages sans temps mort, à la manière des grands polars américains des années 50-60. Cet album semble d'ailleurs en être un hommage.
Et c'est édité par qui ?
Alors, c'est un petit bijou, et les éditions du Tiroir en sont la maison d'édition. C'est une maison d'édition belge qui se spécialise dans les rééditions. Et ils ont bien fait de republier cet album-là, Saint-Germain-des-Morts. Surtout que cela permet de remettre à l'honneur deux tout jeunes arrivants dans le monde du 19e art, Denis Bodard, qui n'a que 22 ans quand il réalise cet album, pour qui ce sera la première réalisation, et Alain Streng, petit nouveau aussi, mais pour qui ce sera le deuxième scénario. La qualité du travail des éditions du Tiroir, c'est de faire un travail pédagogique. En introduction, elles remettent cet album dans le contexte historique de la BD belge, et il se termine par un cahier de croquis et d'esquisses, ainsi que quelques planches qui n'ont jamais été publiées. Les éditions du Tiroir ont un catalogue fourni. De toute évidence, elles ont un fort intérêt pour Henri Verne, le plus que prolifique papa du célèbre Bob Moran. Surtout, elles ont choisi un modèle économique devenu incontournable dans l'édition de la BD, les fonds participatifs, autrement dit crowdfunding.
Le fou lancement.
C'est aussi une autre...
Mais c'est pas une relance qui était prévue, ça ?
Non.
Bon, alors redis ça, parce que...
Le fou lancement,
c'est une version québécoise ?
C'est la version française du financement participatif.
Bon.
Du crowdfunding.
Du crowdfunding.
Je connaissais pas.
Donc, le fou lancement, cette interruption de Seb me perturbe complètement.
Pardon.
Je viens d'apprendre un nouveau mot et il faut que je remette tout mon logiciel à jour. Bref, ces éditions du Tiroir ont choisi comme modèle économique le fou lancement, hein, ce qui permet de sécuriser les publications et de garantir aux autrices et aux auteurs une juste rémunération. Toutes les informations sur le site éditionsdutiroir.org. L'album s'intitule Saint-Germain-des-Morts, il est signé Denis Bodard et Alain Streng, et il est publié aux éditions du Tiroir.
Merci Luc.
De rien.
Et j'avoue que je suis très curieux, parce que moi quand il est sorti cet album, j'avais 4 ans, donc j'aurais pas pu le lire s'il avait pas été réédité maintenant.
Ouais.
C'est une bonne initiative ça.
C'est une super initiative, surtout que moi je trouve que la production est vraiment bien faite. Enfin, c'est un album qui est super bien produit. Il y a qualité de papier, qualité de couverture. Enfin, tout est beau là-dedans. Ça fait un peu, alors, le choix de l'époque, années 60, ça fait donc effectivement un peu vieillot, hein. La Vespa sur la couverture en est un modèle. Même les fringues de la fille qui pilote la Vespa. Mais, il y a quelque chose de vachement intéressant dans cet album. C'est percutant, c'est efficace. Et, tu vas pouvoir rattraper le temps perdu.
Et il fait pas son âge, le bouquin. Clairement, à l'avoir parcouru.
Ouais.
On n'a pas l'impression que c'est un bouquin qui a quasiment 40 ans maintenant.
Ouais. Voilà. Bon. C'était le billet du jour.
Eh bien, merci, Luc. Je vous propose de faire, tu voulais intervenir, Richard.
Oui. Pourquoi tu fais stresser Luc aujourd'hui?
Je ne sais pas. C'était pas volontaire.
Tu me fais saigner.
Mais
comme
oui, c'est ça.
Tu me fais saigner. Je suis stressé.
Il allait faire une deuxième rechute, enfin.
Ce n'était pas volontaire.
Le studio est déjà inondé.
D'ailleurs, j'imaginais pas qu'on avait autant de soins à l'internet. Enfin, bref. Bon, trêve
de... La case de cette version gore.
Ah, on pourra faire une émission spéciale un jour.
Ah ouais.
Trêve de galéjade. Je reste dans la thématique un petit peu avec une petite pause musicale. Et The Veronicas et la chanson Détox. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Je suis toujours en compagnie de Richard, de Nolwenn et de Luc, qui n'est toujours pas décédé de son vidage de sang.
Mais qui va pas tarder, parce que je viens d'apprendre qu'il y avait des claviers elfiques.
Ouais.
Il est fait maison.
Elle a juste collé, en fait.
Le made clavier elfique.
Bon, allez, retournons à la BD.
Avec, je sais pas de quoi. Bon, allez, on va parler de ça, Comment je suis
désolé.
Non, c'est complètement faux. C'est du comics, c'est publié aux éditions Jungle, c'est de Magdalene Visaggio et Jen Saint-Onge. Pour moi, c'est du comics, donc. Et ça s'appelle Le démon de, de Bolingbroke. Je retiens pas le nom de la ville. Eh ben je te le passe.
La couverture est belle. Déjà.
La couverture est belle, à l'intérieur c'est sympa. Je vais détailler un petit peu, tu vas voir, c'est top. En gros, c'est l'histoire de deux jeunes filles un petit peu marginales dans leur école qui ont eu du mal à s'intégrer. L'une des deux souffre d'un trouble du spectre autistique, ce qui fait qu'elle s'isole beaucoup. Il y a des profs qui tolèrent un petit peu ça, genre il y a un devoir à faire où elle doit parler en public ou se mettre en groupe avec quelqu'un. Elle a oublié de rendre un livre au CDI et du coup elle va rester au CDI pendant toute l'heure du devoir. Sauf qu'à un moment, le prof il lui dit t'es mignonne, mais il y a un moment je pourrais pas faire ça tout le temps. Donc là tu vas avoir un devoir à faire et ce devoir tu peux choisir le thème. Et elle décide de partir sur un des thèmes qui est proche de ceux de son ami. Du moment, son amie qu'elle aime beaucoup, elle a pas mal de lubies, elle tourne beaucoup. Et là, elle est dans la sorcellerie. Elle se dit, tiens, si je faisais un truc sur les fantômes. Et elle va se mettre à enquêter sur tous les phénomènes paranormaux qui peuvent se dérouler dans son village. Et avec sa copine, elles vont aller passer une nuit sur un pont où il y aurait un chevalier qui se serait jeté du haut du pont. Elles vont se faire une grosse frayeur dans la nuit. Elles sont censées avoir des preuves que le fantôme existe. Personne d'autre n'arrive à voir les preuves qu'elles ont. Mais elles ont vécu quelque chose de dingue. Et puis en parallèle de ça, on a une peste, comme dans toutes les pestes du lycée, qui fout le dawa, qui est méchante, avec ces deux-là particulièrement. Et à un moment, les filles, elles découvrent une sorte de rituel qui invoquerait un démon ancestral. Et lui dit, écoute, ce serait bien que tu nous débarrasses de machine. Eh, pas de bol, hein, quand on n'est pas très très doué en magie et qu'on fait un petit peu n'importe quoi avec les trucs qui nous passent sous la main, le démon il débarque et il fait pas tout à fait ce qu'on voudrait. Et je vais m'arrêter là, même si je suis déjà bien loin dans l'histoire, parce qu'il y a une mise en place qui est quand même plutôt longue, qui nous permet de comprendre un petit peu.
T'es rendu à la moitié du tome.
Ouais, mais c'est ça. Mais il y a un setup, une mise en place qui est quand même assez longue, qui nous permet de comprendre en fait qui sont ces deux jeunes filles, quelles sont leurs interactions avec les autres et pourquoi elles se sentent pas vraiment à leur place dans ce lycée. Et ça marche bien. On se prend d'affection pour ces deux personnages. Et à un moment, on a quand même envie de leur mettre des baffes parce que du coup, quand tu fais n'importe quoi avec de la magie, qu'on n'y croit pas. Hein. À un moment, il faut quand même essayer de respecter un peu le cadre. Et on a l'impression que tout ce qui se passe de mal dans cet album, c'est de leur faute. Bon, après, dès qu'elles essaient de corriger, elles en remettent une couche de trucs qui va pas. Mais on les aime bien parce qu'on a ce setup un petit peu important au départ qui nous aide à comprendre pourquoi elles font ces démarches-là, pourquoi elles sont dans cet axe-là. Et on a ce côté, ce personnage avec un trouble autistique qui va lui permettre aussi d'avoir une vision différente de ce que sont certaines personnes, de ce que sont certains événements. Sa vision particulière en fait du monde lui permet de passer outre certains préjugés, par exemple. Ce qui rend l'ouvrage vraiment sympa. Donc, moi j'ai passé un bon moment à le lire. Graphiquement c'est plutôt cool, on est dans une veine plutôt comics avec des personnages qui sont attachants, les couleurs sont plutôt mates avec des contrastes parfois un peu forts, même s'il y a une unité globale plutôt je veux dire brune rougeâtre, mais il y a plein de trucs, c'est vraiment sympa, c'est un bon moment, voilà. Vous l'avez tous parcouru, là.
Je l'ai parcouru pendant que tu nous faisais le synopsis, et effectivement, c'est plutôt cool. D'autant plus que J'aime beaucoup quand on, bah, soit il y a l'esprit, soit il y a le démon. Vraiment, il y a toutes ces nuances de rouge ou de bleu-blanc. Et non, c'est plutôt cool. Le dessin est cool. Et comme tu dis, c'est assez mat, ce qui fait que ça fait un peu. Moi, ça me rappelle un peu les téléfilms, en fait, du fait que ça soit mat.
Ouais, il y a une espèce de grain, en fait. C'est ça que tu veux dire, hein, qu'on peut retrouver. Même si,
Ce qui est bizarre, c'est que la couverture n'a pas le même style de couleur que les pages.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'il y a ce petit ah d'accord en fait.
Elle est plus catchy. Ouais. Elle est plus lumineuse que l'intérieur. On est bien d'accord là-dessus.
Oui. Puis, ce qui est déconcertant, c'est que on est effectivement, en fait, tel que tu l'as dit, dans du comics, mais on est pris de court parce que les personnages sont pas des personnages de comics. Enfin, spontanément, on s'attend à voir des biceps, des formes et autres, et on est face à un jeune public. D'après toi, ça s'adresse à qui, c'est un album comme ça?
Ça, c'est pour les ados, jeunes adultes.
Ouais.
Mais vraiment plus ados, 12-14, même à partir de 10, hein, ça se lit très facilement. C'est pas, y a pas de langage complexe, y a pas de scène choc. Ça parle de harcèlement, y a des thématiques qui vont parler aussi à ce public-là, qui vont leur permettre de peut-être extérioriser des choses qu'ils peuvent vivre avec cette petite couche de paranormal.
C'est vrai ce que tu dis, Luc. Pour le coup, les personnages font très BD adolescent, ouais. Alors que le livre en soi, vraiment le, je sais plus comment ça s'appelle quand c'est comme ça. C'est pas un format BD classique. Il y a la couverture, c'est directement
couverture une sorte souple, de... avec rabat.
Ça fait très, c'est même pas un comics en fait. C'est comment?
Alors, je redonne juste un petit coup de cadre quand même, parce que souvent dans l'imaginaire des gens, le comics c'est super héros, c'est très sculpté. Bah, le comics c'est de la BD américaine, tout comme il y a autant de variétés dans la BD franco-belge et dans la BD et dans le manga, qui est une forme de BD. Il y a quelques éditions qui font des publications en France de comics qui n'ont absolument rien à voir avec les super-héros et qui sont vraiment très très cool.
Ah bah le comics c'était effectivement à l'époque aux États-Unis, enfin le nom de comics c'était des publications pas chères qu'on trouvait dans les bureaux de tabac à je sais pas combien de à moins d'un dollar quoi, 50 pence j'imagine. Donc ça c'était ça, mais c'est vrai que le terme comics a été bouffé par Marvel et compagnie. Donc c'est eux qui ont redéfini l'image du comics en lui donnant d'ailleurs un côté très noble et très très onéreux. Moi je me souviens avoir lu quand j'étais gamin, parce que j'ai été gamin.
D'accord. Oh. Quand comme la télé.
Mais on lisait des comics, hein. Enfin je pense j'ai toute une série de titres, hein, des Ambla, des Black Le Rock et autres, qui étaient des comics, mais c'était cheap. Publication très cheap, mais c'est vrai que Marvel et compagnie ont transformé le concept de comics et on est un peu pris de court. Ce que je veux dire, c'est que là on est sur une déclinaison jeune public qui est vraiment bien. Enfin moi je trouve que il y a un choix graphique, un choix colorimétrique qui est vachement intéressant, une mise en page pour effectivement ouvrir le regard du public sur sur ce que peut être la BD, les formes qu'elle peut prendre, la mise en page qu'elle peut prendre. Moi, je trouve ça vachement intéressant.
On aura sans doute l'occasion d'y revenir sur les comics, parce que il y a, c'est ce que tu disais, Marvel, DC ont pris le dessus et ont marginalisé une partie, en fait, de ces publications-là. Il y a quelques éditeurs, Jungle en publie pas mal, on a les éditions Bliss, on a les éditions iComics qui publient toutes les Tortues Ninja. C'est pas du super-héros. C'est un petit peu quand même, mais, y a Urban, font principalement que du super-héros, qui ont une collection Urban Kids qui reprend des formats un peu comme celui-ci, et qui ont des thématiques super-héros qui sont pas tout à fait celle qu'on a l'habitude. Et le comics a besoin aussi d'avoir cette remise en avant, de dire que c'est un vrai genre de bande dessinée qui n'est pas que cantonné aux super-héros, même si c'en est un gros pan, parce que c'est une énorme production.
Je suis d'accord, c'est bien. Vas-y, fais un travail pédagogique là-dessus.
Eh ben, pas de problème. J'ai quelques petits trucs à la maison que j'ai vraiment, vraiment kiffé. Parce qu'on a dévié un peu du sujet, je redonne les références, c'est le démon Le Délémon.
Le Délémon.
Le démon de Bolingbroke. C'est de Magdalène Visaggio et Jeanne Saint-Onge et c'est publié aux éditions Jungle. On va faire une thématique un petit peu plus importante. On va parler de dinosaures. Non, Richard, on ne parle pas de Luc.
Oh non, non mais...
Il n'y a pas pensé, tu ne l'as pas faite.
Ok. Non. Enfin.
On va rester poli.
Ah, je connais ce thème musical.
Bah, c'est un. Alors, j'adore. Je suis resté un grand gamin. J'adore les dinosaures. Jurassic Park est sans doute un des films que j'adore le plus au monde. Et ce thème musical de John Williams, il est fabuleux. Je monte un petit peu parce que c'est vraiment. Moi, ça me met des frissons systématiquement.
T'as vu Carnosaur?
De quoi? Non, 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 non. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Là, je vais vous parler de deux ouvrages différents qui parlent à peu près de la même chose, mais en parlant pas de la même manière. Je ne sais pas par lequel commencer. On va commencer par Dinosaur Sanctuary. Okay. Et ben, du coup, vu qu'il est devant toi, Richard, est-ce que tu veux bien donner juste les refs?
Oui, pour le coup, Dinosaur Sanctuary, premier tome, de Hitaru Kinoshita, qui est édité chez Kazoku.
Alors, pourquoi je
sens le manga et Michel Lavon.
C'est
l'éditeur principal.
Ouais, c'est l'éditeur principal. Alors, pourquoi je commence par Dinosaur Sanctuary? Puisque Dinosaur Sanctuary part d'à peu près le même concept que Jurassic Park, dont on parle tout à l'heure, avec une petite variation.
Ouais.
C'est que il y a eu des dinosaures qui ont survécu, qu'on a réussi à retrouver sur une île perdue du Japon, qu'on a fini par élever, qu'on a fini par transformer un petit peu pour arriver à les aider à se procréer. Il y a des parcs d'attractions qui ont été créés avec ces dinosaures. Et puis, à un moment, les dinosaures, il y a eu une espèce de cataclysme, une espèce de quelque chose dont on n'a pas vraiment le détail, qui fait que c'est devenu quelque chose de moins intéressant. Et on va suivre une jeune fille qui a décidé de devenir vétérinaire pour dinosaures et qui va aller dans un parc qui est quasiment tombé en désuétude et qui va découvrir avec les soigneurs qui sont déjà sur place la difficulté de prendre soin de dinosaures.
À la différence que là, ce n'est pas un parc, c'est un zoo.
Oui, c'est un zoo. Oui, je dis parc, mais c'est un zoo. Parce que du coup,
parce que John Hammond, lui, il voulait gagner de la thune quand même un peu.
Ouais, là, ils en ont pas de thune. Hein. Clairement, c'est vraiment un zoo où les bénéfices et les subventions ne sont pas là, et ça pose plein de problèmes. Puisque il y a tout un passage, par exemple, c'est là où tu as rendu Luc, où on a un dinosaure qui a besoin en fait de couver ses œufs, mais il y a trop de chaleur et du coup faut pouvoir rafraîchir le dinosaure parce que sinon il va devenir cinglé et ils ont pas le budget pour avoir une clim pour s'occuper de ces dinosaures là, donc il faut trouver des solutions. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper challengeant d'avoir des explications. Alors, pseudo-scientifique, parce que comment s'occuper d'un dinosaure au quotidien, je pense que personne ne peut nous expliquer, même si on peut se donner quelques pistes. Mais cette explication en mode zoo des dinosaures, c'est quelque chose que j'avais jamais vu et qui est plutôt cool, en fait.
Toi qui as lu le tome?
Oui.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait manger?
Non, pas dedans. Non, non, mais il y a plein de. Alors ça fait aussi un parallèle avec certains animaux. C'est ce que t'en chines en fait toujours avec sur les passages, puisqu'à un moment il y a un triceratops qui était une attraction phare. Il a trois cornes, c'est dingue. Et parce qu'il s'est coincé la corne dans une grille, il s'est cassé la corne. Et du coup, plus personne n'allait voir ce triceratops qui n'en avait plus que deux des cornes. Donc il y a ce côté très mercantile en fait de l'animal qui est aussi dénoncé là-dedans, qui est plutôt intéressant parce que ça s'applique aussi à des animaux qu'on va avoir nous dans nos parcs. J'aime bien garder le thème parc parce que ça reste quand même un loisir en fait d'aller voir des animaux dans les cages. C'est même si on veut préserver les animaux, c'est pas toujours simplement parce qu'on veut les préserver. Ils seraient peut-être mieux chez eux, en fait.
Ouais.
Sur ta question, Richard, question qui est pertinente, il faut bien le dire. Hein, est-ce qu'il y a des gens qui sont mangés?
Oui.
C'est d'ailleurs l'inquiétude qu'on peut avoir avec les dinosaures.
Oui, oui, oui.
On se dit toujours. En fait, ces dinosaures, moi, je feuillette l'album là. Ils sont vachement sympathiques. Hein, même le Triceratops, il fait pas peur. Hein.
Ah bon.
Donc Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils sont sympathiques. Donc, ça m'étonnerait qu'ils mangent, en fait, hein, qu'ils mangent des gens.
Non, c'est une vision plutôt pacifiste, en fait. Même si on sent qu'il s'est passé un truc. Parce qu'il y a ce personnage principal qui est plus ou moins lié au fait que les gens n'aiment plus trop les dinosaures.
D'accord.
Mais c'est un secret et on ne nous le dit pas. Donc il y a ce petit truc pour maintenir un peu l'attention dedans. N'hésite pas si tu veux, Nolwenn, parler des dinosaures d'un point de vue plus scientifique. On est preneur. Hein.
Alors, malheureusement, je n'ai pas pu étudier les dinosaures. J'étudie la biodiversité qui est actuelle.
Ouais.
Tu les as ratés d'environ combien de temps?
Un petit million d'années.
Pas longtemps. Franchement, j'étais à ça près.
Bah ouais.
Non, moi, ce qui m'interroge, c'est effectivement, ça en lien avec Jurassic Park. Et c'est un peu. C'est croustillant, en fait, dans l'actualité, quand on parle de faire revivre des espèces, genre manger de la viande de mammouth, ou refaire vivre des aurochs, je crois que c'est ça. De refaire vivre des espèces, mais en fait, quand bien même on y arriverait, une espèce, ça vit pas comme ça. Il faut reconstruire le contexte environnemental qui va avec. Et notamment les dinosaures, ils ont prospéré dans une ère climatique, géologique, qui était tellement particulière et qui était de mémoire beaucoup plus bourrée en carbone atmosphérique que maintenant, même si là c'est trop pour nous, pour eux ce serait peut-être pas assez.
Peut-être qu'ils vont revenir, trop bien.
On sera plus là malheureusement.
Oh.
Dommage.
Je suis un peu déçu.
Bah oui, parce que il semblerait qu'il y ait une cohabitation impossible.
Et
les conditions, l'univers de vie.
Ça. Déjà le fait qu'ils soient retrouvés sur une île exclusivement, excusez-moi, mais ça pue un peu la mort parce que autant d'individus et d'espèces comme des dinosaures sur une île. Est-ce qu'on nous donne la taille de l'île? Est-ce qu'on nous donne la richesse en biodiversité de l'île? C'est plein de paramètres qui peuvent un peu venir questionner au-delà de juste « Oh, il y a un parc zoologique avec des dinosaures » et s'il y avait des réponses à ces questions, ça pourrait apporter encore plus de solidité au scénario.
Il y en aura peut-être plus tard.
Il y en aura peut-être plus tard, c'est le premier tome et je ne l'ai même pas lu. Donc là, c'est vraiment juste une réflexion purement scientifique. Hein.
Sachant que l'autrice a beaucoup échangé avec des spécialistes.
Avec des dinosaures.
Non. Non. Denver, c'est une fiction. Non, elle a beaucoup échangé en fait avec des spécialistes des dinosaures pour savoir si la représentation qu'elle en faisait graphique était crédible ou pas.
Oui.
Et elle dit, même si on me donne de bons indices, il y a des trucs aussi, il faut que ce soit un petit peu...
Il y a forcément une part d'imagination parce que les fossiles, c'est pas une photo et c'est encore moins un modèle 3D. Donc, avec les dessins sous les yeux et la couverture qui est du coup en couleur... Je trouve que ça manque un peu de plume.
Ouais, elle en parle.
Ça manque un peu de plume parce que je crois que ils avaient des plumes, les dinosaures. Je crois que le T-Rex en avait, en tout cas, peut-être un moment de sa maturité, de sa croissance. C'est peut-être le seul truc qui m'interpelle, mais sur le reste, les proportions sont hyper bien gérées. Enfin, là, c'est le dessin dont je parle, mais c'est très beau à regarder, très beau à lire.
Et c'est très intéressant à parcourir parce qu'il y a vraiment ce côté un peu pédagogique quand
tu
même.
Tu l'as lu? Est-ce que il y a des faits, par exemple, des faits biologiques sur les espèces qui sont donnés durant le
sur travail? Le côté ovipare, par exemple,
ouais.
Sur il y a plein de petites choses sur la façon de se positionner, comment était le bassin en fait des dinosaures, pourquoi ils seront plutôt assis de cette manière-là. Il y a plein de petits faits justement qui sont plausible parce qu'il y a eu cette interaction de l'autrice avec des spécialistes.
Ça, c'est super.
Ouais, moi, je me demande comment quelqu'un comme Nolwenn, qui est très pragmatique, scientifique, qui a vraiment une approche scientifique, qui pourtant joue avec un clavier elfique, si on va pouvoir si elle peut encore venir, parce qu'elle détruit tout ce qui est possible dans la BD, l'imaginaire, le rêve. Non, elle vient en disant, les dinosaures, c'est pas possible et autres. Donc, faut que tu réfléchisses à ça, Seb.
Allez.
Je pense qu'on lui fera un petit cours sur la suspension consentie de crédulité.
Je suis en train de lui faire découvrir Stranger Things, ça a tout le temps pour dire, mais attends, ça c'est pas possible. Humainement parlant, c'est moche, ça peut pas tenir cette chair bizarre.
Alors, on va aller plutôt dans ton domaine. Alors, je redonne juste les références, si tu peux y aller, s'il te plaît.
Oui, du coup, Dinosaur Sanctuary par Hitaru Kinoshita. aux éditions Kazuru et Michel Lafon.
Super. Et du coup, on va partir plutôt sur ton domaine avec là du fait, du scientifique, du gros, du lourd, oui, avec Nos mondes perdus de Marion Montaigne aux éditions d'Argo. Et bien là, on se base sur les faits réels. Qu'est-ce que c'est qu'un dinosaure? Pourquoi? Comment on les a découverts? Pourquoi on les a appelés comme ça? Pourquoi on les représente comme ça? Et avec beaucoup d'humour. Alors, si vous connaissez pas Marion Montaigne, c'est la jeune femme, l'autrice, pourquoi je me dis jeune femme, qui a fait « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même ».
C'est ce que j'ai vu. J'ai vu le dessin, j'ai fait « Mais ça me fait penser à cette série. »
Ça avait été fait en dessin animé sur Arte.
Oui, c'est Arte. Ah, c'est trop bien. Et c'est sur YouTube. Ouais. C'est gratuit. N'hésitez pas à aller voir. C'est trop bien.
Allez voir le fameux professeur moustache qui est Marion Montaigne avec une moustache. Ah, parce qu'avoir une moustache, c'est plus crédible, bah, oui, il paraît, bah, oui, pour parler.
C'est ce que m'a dit ma mère.
Et non, mais c'est l'avis de Marion Montaigne qui a peut-être évolué depuis. Mais elle pensait que voilà, avoir une moustache à l'époque lui permettait d'être plus crédible pour annoncer des faits. Donc elle s'est dessinée avec une moustache. Bref. Eh ben, Nos mondes perdus, c'est un parallèle sur l'éducation de Marion Montaigne. Pourquoi elle en est venue au dessin et à la vulgarisation et la découverte des dinosaures. Donc il y a un côté très transversal, sur très parallèle, pardon, sur justement l'éducation de l'époque, des différents scientifiques qui ont pu être amenés à découvrir les dinosaures, et l'éducation de Marion Montaigne qui s'amuse en fait à chercher un petit peu certaines réponses qu'on ne lui donnait pas à l'époque. Donc bien entendu, il y a le domaine religieux qui rentre en compte là-dedans, il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de savoir, c'est un bouquin qui est quand même hyper dense avec beaucoup 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 d'infos, mais on se marre. C'est aussi là le gros point fort de Marion Montaigne, c'est qu'elle a un dessin qui est très expressif, souvent des personnages, il y a beaucoup de détails, mais il y a des gros yeux, il y a des personnages qui font des tronches de 6 pieds de long, et il y a des vannes foireuses tout le temps, enfin foireuses, désolé Madame Montaigne, mais moi c'est des vannes qui des fois je fais, pourquoi c'est là? Et c'est juste parce que ça casse un petit peu le côté trop sérieux de certains thèmes, et ça permet de mieux comprendre certaines choses.
Les personnages ont un petit style français de caricature.
Ouais, bah il y a ils sont tout petits ratatinés, ils ont tendance à être plus larges que hauts, et c'est juste génial en fait comme bouquin ce que fait Marion Montaigne.
Et donc
pour resituer,
ça parle de dinosaures, mais pas vraiment, c'est plus sur l'idée.
Non, ça parle vraiment de dinosaures, de à quel moment en fait on a commencé à découvrir les dinosaures.
Ok.
Comment on s'est passionné pour les fossiles et comment en fait la question du dinosaure dans le religieux a pu poser des petits problèmes. Parce qu'en fait, on a quelques scientifiques qui se sont dit, bah tiens, moi la Terre, je pense pas que Dieu il ait tout créé, puis qu'à un moment il se soit dit, non, toi je t'aime pas, t'es mort.
Mais oui, mais les religieux sont comme ça.
Et en fait,
la Terre est ronde.
Il y a un truc que je trouve assez fabuleux, parce que une des hypothèses de la création de la Terre, c'est que le Soleil aurait été frappé très très fort avec un truc, et que il y a des morceaux qui auraient éclaté et qui auraient refroidi. Donc il y a un mec qui s'est dit, bon, on va faire des, j'ai pas retenu les noms, je suis désolé. On va faire des grosses boules en fer, on va les chauffer, puis on va voir combien de temps elles mettent à refroidir, puisque la Terre, c'est à peu près ça. C'est un gros morceau de truc qui refroidit. Donc, il a expérimenté ça. Puis après, il s'est dit, tiens, mon hypothèse, elle est pas trop bête. Donc, je vais la mettre dans mon encyclopédie que je suis en train de faire, là. Mais alors, par contre, j'ai pas trop envie de me faire cramer par les religieux, donc comment je peux faire accepter ça comme idée? Donc, il a été voir un dessinateur, il lui a dit, bah, écoute, est-ce que tu pourrais me faire une comète qui passe comme ça en direction du Soleil, puis avec Dieu qui regarde, mais qui touche pas? Parce que si Dieu touche pas, c'est qu'il est d'accord. Et là, tu fais.
Oh,
ouais, quand on est rendu là, c'est que tu tiens vraiment pas perdre ta tête, quoi.
Oui.
Et ça fourmille de petites anecdotes. Il y a des choses qui sont très humoristiques, mais ce qui est hyper bien, c'est que Marion Montaigne arrive à faire des vannes que tu sais qui sont des vannes. Mmh. Tu vas pas te poser la question de savoir si c'est véridique ou pas. Et c'est hyper intéressant. Les scientifiques qui se tirent la bourre, il y en a un qui trouve un fossile, il fait attends, continue à fouiller un petit peu et tout, pendant que l'autre il fait moi je viens de trouver un plus gros, histoire de juste d'avoir la meilleure, quoi. C'est qui est la plus grosse, hein? C'est bête, mais
c'est un vieux classique, ça.
Ouais, alors que aux États-Unis, quand ils ont commencé à faire des fouilles de dinosaures, s'il y en avait un qui avait trouvé un dinosaure plus gros que l'autre, on le faisait péter à la dynamite, comme ça il avait pas de preuve.
Ah,
et là tu fais ouais,
le mec super, ou le dinosaure.
Le dinosaure. Ah, bah, quoi que. Mais c'est hyper intéressant sur le pourquoi on a appelé tel dino de telle manière, pourquoi on a il y a tellement de choses en fait, c'est tellement riche que c'est dur en fait à résumer parce que il y a beaucoup trop de choses dans cet ouvrage.
Ce qui est intéressant dans les deux albums dont tu viens de parler, que tu viens de présenter, donc Dinosaur Sanctuary 1 et Nos mondes perdus, c'est que dans le manga, il y a une volonté de représentation réelle des dinosaures.
Oui.
Alors que dans Nos mondes perdus, on est très très loin de ça. On est dans du dessin de BD, quoi. Il n'y a pas une quête de véracité sur la représentation. Il y a certainement une quête d'information scientifique à l'intérieur. Et je trouve que mettre les deux côte à côte, on a deux démarches, une démarche scientifique, une démarche récréative et ludique. Et c'est vraiment intéressant de se rendre compte de cet aspect de ces deux albums-là.
C'est vrai que dans Nos mondes perdus, à part la couverture, dans l'ouvrage, il n'y a pas beaucoup de représentations de dinosaures.
Mmh. Alors, sachant qu'il y a dans Nos mondes perdus, il y a tout un chapitre qui est consacré en fait à la représentation des dinosaures et à la vision d'artiste.
Il y a un chapitre, mais vraiment, je parle vraiment de l'ouvrage en entier, tu vois. Mais c'est beaucoup de personnages de scientifiques ou de chercheurs.
Le parallèle que faisait Luc, on a la réponse en fait dans l'ouvrage, c'est que il y a un.
Je viens de voir Yann. Dans Jurassic Park, la pose de Yann.
Amonde
Non.
Ah oui, Ian Malcolm.
Ian Malcolm.
Ah oui.
Qui vient de faire. Excuse-moi.
Exact. Il y a plein de références à Jurassic Park dans l'ouvrage. Mais on a un des scientifiques qui s'est dit, mais comment moi je pourrais me débrouiller pour que les gens s'intéressent aux dinosaures? Parce qu'avant, les dinosaures faisaient 2-3 dessins dans des ouvrages scientifiques, personne n'en avait rien à faire. Il s'est dit, moi je vais faire une espèce de parc avec des sculptures de dinosaures. Donc il a été voir un artiste, il lui a dit, fais-moi des sculptures. Alors, le mec il fait un petit truc, il dit, non, je veux des grosses sculptures. Et à un moment, sur la vision d'artiste, le mec il s'est dit, ouais mais attends, si tu me le fais comme ça, moi je trouve que ces muscles ils sont pas suffisants pour supporter son poids, donc artistiquement parlant, le mec il a modifié des trucs. Ce qui fait que dans l'exposition, on a un dinosaure avec une bosse, et dans le document que recevaient les gens quand ils allaient voir l'exposition, le scientifique a dit « Non mais là, il n'y a pas de boss. » Et c'est comme si on disait « Non, la Joconde, en fait, ses cheveux, ils sont pas comme ça parce que scientifiquement parlant, c'était pas possible. » Et tout ce parallèle de la vision d'artiste est hyper intéressant aussi à regarder là-dedans. Parce que Marion Montaigne fait une vision d'artiste de vulgarisation scientifique aussi.
Est-ce que ça explique tous ces parcs, ces petits parcs et tout ça qu'on voit quand on est en vacances où c'est plein de statues de dinosaures, enfin de représentations de dinosaures?
Non, ça n'explique pas où j'en suis rendu, non, ça ne l'explique pas.
Non, mais c'est évident que l'imaginaire autour des dinosaures, il fait fantasmer, il fait rêver, oui. Ça développe, effectivement, ça s'appelle là.
Nos mondes perdus.
Bah oui, c'est des mondes perdus, c'est des mondes que peut-être qu'on aimerait retrouver pour plein de raisons. Et si les films, si Jurassic Park fonctionne, c'est bien parce que ça touche à quelque chose, à notre imaginaire et à un imaginaire profond. Parce que Jurassic Park, ça fonctionne internationalement. Ça fonctionne aux États-Unis, en France, en Chine, et parce que je pense que ça participe d'une connaissance commune qui appartient à tous les êtres humains et qui, tout d'un coup, se disent, rêvent de ce monde-là, parce que on peut en rêver parce qu'il a existé. Quelle que soit la réalité des représentations aujourd'hui, mais ce monde, il a existé, et donc il y a une espèce. Il me semble qu'il y a une attraction parce que c'est un imaginaire possible, c'est pas un imaginaire rêvé.
Je vois pas quoi rajouter à part non, que oui. C'est peut-être un petit peu ce que vivent les millénials quand ils pensent à la période où mes grands-parents, par exemple,
quand ils voient des Minitel.
Ouais, des Minitel. Ils se disent tiens, ça fonctionnait, ça a existé, on a des preuves.
Il est bizarre cet ordinateur. Comment on va sur YouTube?
Non mais le dinosaure, c'est un truc qui est fabuleux parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nolwenn. Probablement qu'ils avaient des plumes, sauf que les plumes se sont tellement dégradées qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas de choses basées là-dessus. Mais tout comme les cheveux, en fait, ne restent pas dans le sol. Ça se trouve, les dinosaures avaient des cheveux plus que moi ou Luc réuni.
Une moustache, comme ma mère.
Moustaches, voilà. Mais on ne le saura sans doute jamais.
C'est tué Luc.
Attention, attention, il est fragile ce soir. Ne me le casse pas, s'il te plaît, j'en ai encore besoin.
On saura toujours que Richard a une vie familiale intense.
Non, mais c'est vrai que c'est... Et toute cette notion de représentation de ce dinosaure-là, de se dire, bah, tiens... Le monde perdu, on parle vraiment bien de cette comparaison de on a chopé une dent, la dent elle ressemble à une dent de tel truc, bah tiens on va l'appeler iguanodon, hein, c'est, bah, parce que la dent elle ressemblait à une dent d'iguane et qu'on a juste dit dent d'iguane, hein. Iguanodon c'est juste grosse dent d'iguane. Hein.
Et on peut même pousser le truc plus loin, c'est que quand les ossements ont été retrouvés, quand des fossiles, des traces ont été retrouvées, après... Pourquoi penser qu'à des dinosaures, il y a eu les dragons, il y a eu les tarasques, il y a eu les licornes, donc encore que la licorne, c'est une corde narval, mais il y a un autre imaginaire que l'imaginaire réel qui s'est construit autour des traces, autour des fossiles, et ça a fait une sorte d'imaginaire de monde alternatif, et je trouve ça trop cool de se dire que peut-être que dans un autre monde, en fait, les ossements de dinosaures, c'est des ossements de dragons, et que eux, les dragons, ils ont existé, et... Sur cette planète-là, les kaijus, c'est pareil. Ça s'apparente aussi à des grosses bestiaces, comme on peut penser aux dinosaures. Donc, le dinosaure, quel qu'on l'imagine, en fait.
Oui, dis-moi.
Je veux une chronique intégralement comme ça, moi.
Voilà. Vas-y, raconte-moi. Alors, qu'est-ce que c'est les dinosaures?
Le dinosaure tel qu'on l'imagine, oui. C'est... Non, ça va être compliqué, vraiment. C'est ni plus ni moins qu'un dragon qui a existé. Si ce n'est qu'il crachait pas du feu, quoi.
Après, qu'est-ce qu'on en sait? Si
après,
on ne retrouve pas, en fait, des éléments nous permettant de le savoir.
C'est la théorie des hirondelles blanches. Tant qu'on n'a pas vérifié qu'il crachait pas du feu, on peut toujours l'imaginer.
C'est moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, Nolwenn, c'est effectivement de parler de traces. Donc, de pas définir l'objet que l'on voit, de simplement dire il y a quelque chose et ne prenons que ça, n'allons pas au-delà de ça. Après, ça ouvre justement plein de portes et je trouve ça cette manière d'observer est intéressante. Hein.
Mais je veux pas que raconter de plus, moi. C'est un sujet sur lequel on peut parler des dizaines de...
Ah oui,
d'heures, sans problème.
Là, vous me le perdez, vous tiens à la patte pendant 3 heures, il n'y a aucun souci.
Mais malheureusement, il ne reste que 6 minutes, hein. Et un peu moins que ça même. J'ai envie de parler d'un autre truc, mais du coup, on en parlera dans 15 jours, puisqu'il y a la série Glouton et Dragon qui est sortie sur Netflix.
Si tu veux, je peux m'en charger.
Eh ben, charge autant. Mais que si tu me fais une belle chronique.
Ouais, mais c'est compliqué, il n'y aura que 3 épisodes de sortie.
4 du coup.
Ah ouais.
C'est un par semaine.
Ouais. Je vais essayer de voir.
On verra. Revenir, No Monde Perdu, Marion Montaigne aux éditions d'Argo, c'est vraiment un bouquin qui est très très bon, très très drôle, sur lequel vous apprenez des trucs et qui permet aussi de remettre en avant, et ça c'est aussi hyper intéressant, certains des découvreurs qu'on a fini par mettre sous le tapis sous prétexte que c'était pas un bonhomme. Et quand on a une dame qui découvre un truc et son mari fait hey, donne, c'est mon bouquin, il fait bah non, ça va pas être c'est aussi intéressant de
découvrir ces gens-là. On refait un petit tour de tout ce que
On avait parlé du démon de Bolingbroke aux éditions Jungle de Magdalene Visaggio et Jane Saintonge. On a parlé avec Luc
de Saint-Germain-des-Morts de Baudard et Streng aux éditions du Tiroir.
On a parlé du bateau de Thésée avec Fabien.
On a parlé de Dinosaur Sanctuary par Itaru Kinoshita aux éditions Kazoku et Michel Lafon.
Et on a terminé avec No Monde Perdu de Mario Montaigne, édition d'Argo.
Eh ben, c'est fabuleux, ça. That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui signale la fin de l'émission. On a passé une heure ensemble, on s'est bien marré. On a découvert des belles images. J'espère qu'on arrive à vous les transmettre facilement. C'était de votre côté.
C'était une émission épique avec beaucoup de rire, de sang.
Il nous manque les larmes. Non, mais c'est
les gens savent vraiment pas ce qui s'est passé. En fait, là, on leur parle de sang.
Oui, mais il faut laisser un peu de suspense. c'est là où ça devient intéressant, où la radio ouvre des perspectives à l'imaginaire.
En tout cas, personne n'est mort, soyez rassurés.
Non, ça va.
Non, il y a que la lampe qui est rouge.
Alors, on le fait pas beaucoup, mais n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous dans le chat. Il faut que je reparle toujours avant l'émission pour que vous puissiez le faire. Là, je vous ai fait un petit coucou. Interagissez avec l'émission, non, parce qu'en fait, il n'y a personne après nous hein, ce soir.
Si, il y a une excellente émission qui s'appelle Résonance, l'émission de Marie Nadou, qui explore les musiques indépendantes, et c'est vraiment une très belle émission, et dans quelques minutes, on va lui laisser la place, ouais.
Eh bien, restez connectés sur le 101.5 de Radio G. Vous pourrez retrouver ce podcast sur le www.radio-g.fr dans quelques instants. Et puis, je tiens à vous remercier déjà, mes chers camarades. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai appris à lire. Ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Nous, un petit schtoum.
Batman. Trop vite. Il n'est pas fait de moi ici.
Justement, les touristes de bord.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi. Everything went back to how it was. But nothing ever felt right.
FM.